1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix
plus claire? Good morning, Vietnam!
Tonight we present a very warm little story called Kill with Time.
On a un intro dans le studio, on laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Suffit que tu fermes ta gueule. Je te vois, je te laisse ramener. But the people love to rock and to roll. I
listen to radio rock and I'm the count.
C'est cool, ça va arriver, les voisins.
Bonsoir à tous, enfin bonjour ou bonne matinée, ça dépend de où est-ce que vous nous écoutez, quand vous nous écoutez, et blablabli et blablabla.
De toute façon, la rediffusion c'est samedi à 13h30. Hein, donc
oui, mais même avec internet tu peux nous écouter
c'est
quand on
faux.
Veut.
C'est pas faux.
Donc voilà, donc vous êtes avec les décadrés sur PFM 99.9 en compagnie donc de Antoine,
oui,
qui vient déjà de parler.
C'est ça, salut.
Ben.
Bonsoir. Bonjour.
On sait plus, des fois on sait plus. Et Adrien.
Bonne matinée, bonjour, bonsoir, bonne nuit.
Oh,
enchanté.
Parfait. Je trouve que c'est une très belle introduction à cette
angles.
Nouvelle émission. Mais les quoi ?
Il met les angles.
Ah, parfait.
Alors, non, pas les sangles, hein. Les angles.
Oh, punaise. On avait dit que ça allait être une émission à blague pourrie, j'ai l'impression, ce soir. C'était dit. Alors, nous allons commencer tout de suite. On va reprendre les bonnes vieilles habitudes avec Benjamin qui commence déjà à prendre des photos du studio. Nous allons commencer par ces magnifiques news.
Oui, donc en news, on a eu la nouvelle affiche d'Alien Covenant, le prochain film de Ridley Scott, qui sera la suite de Prometheus et le préquel d'Alien, le 8e passager. Donc l'affiche révèle le xénomorphe sur un fond noir et sombre, et on a un slogan qui dit « Run, cours ». Donc c'est assez effrayant, et ça annonce la date de sortie, donc le 19 mai 2017. D'ailleurs, la date de sortie qui a été avancée.
Avancée,
le film devait sortir l'été prochain. On a aussi vu le trailer de Silence, le nouveau film de Martin Scorsese, donc, dont la sortie a été annoncée le 18 janvier 2017. Le film est coécrit par Scorsese et Jay Cox, et on suit donc des missionnaires jésuites portugais au Japon, donc ils doivent aller au Japon, et ça se passe au 17e siècle, pardon. Ils doivent retrouver leur maître, je crois, leur ami, quoi, je ne pourrais pas dire.
Personne qui travaille avec eux, qui missionne avec eux.
C'est ça.
Et qui a
disparu.
Supérieur.
Voilà, et qui a disparu, qui est devenu un peu bizarre. Donc c'est un peu un genre d'apocalypse, no, quoi. Les mecs doivent aller au fin fond d'un périple qui a l'air.
Au Japon.
Assez violent. Ensuite, on a eu. J'ai découvert un trailer. Un trailer pour un fan film, Terminator. Donc il s'appelle Terminator Extermination. Donc en fait c'est un fan film et un trailer un peu particulier parce que c'est un pitch.
D'accord.
Donc c'est deux réalisateurs et scénaristes qui s'appellent Bruce Sterling.
Le petit truc à manger là.
Bruce Sterling et John Knox, donc qui ont écrit, qui ont fait un pitch en vidéo pour un film qu'ils aimeraient bien faire. Donc qui s'appelle Terminator Extermination. Et du coup le pitch est en animation.
D'accord.
C'est assez cool, c'est hyper violent.
Ouais.
Et c'est un peu le film qu'on a tous envie de voir. C'est à dire que vous savez, dans le film Terminator et Terminator 2 démarrent en les humains ont gagné la guerre contre les machines.
Oui, oui.
Et ben eux leur pitch est: ils ont gagné la guerre, mais qu'est-ce qui se passe après? Et ben
Suspense.
Bon, ce qu'ils annoncent c'est que les humains se font la guerre. Ils n'arrivent pas à faire la paix même entre eux, quoi.
Oh.
Et les Terminators ont formé une résistance à eux seuls.
De toute façon,
donc c'est assez rigolo.
Arnold l'a déjà dit,
mais ça a inversé les rapports.
Schwarzy l'a dit, mais on ne peut pas retarder le jugement dernier.
D'accord.
On peut le retarder, mais on peut pas l'annuler.
On a même des Terminators qui mangent des humains. Et alors ça, c'est très bizarre.
Ils mangent des humains.
Ouais.
Mais pourquoi les Terminators mangent?
Je sais pas.
Ouais, je crois ils ont pas des batteries.
Si, mais
genre des super batteries lithium.
Et ils sont devenus très hard. Vous pouvez le soutenir sur internet en partageant du coup la vidéo le plus possible.
Ah non, ils mangent des humains.
Oh. Et donc ouais, ils mettent à la fin pour promouvoir le script pour un film complet en images réelles. Donc voilà.
Ah bah avec plaisir, on partagera ça. On vous invite à le faire autant.
Et maintenant donc il y a Adrien qui a une annonce à nous faire.
Ah oui.
Ah oui.
Il avait oublié.
Bonjour, enchanté. Oui, alors petite annonce, grande annonce même. Voilà, j'annonce le prochain Popcorn Reborn, donc qui se déroulera au Cinémovie d'Arras le 26 janvier 2017 à 20h30. Et le film donc qui sera présenté dans cette soirée, ça sera Retour vers le futur.
Oh,
pam pam pam, joie, bonheur et allégresse. Et bah... donc voilà, ça sera Retour vers le futur le 26 janvier 2017. Donc ça sera une soirée Popcorn Reborn. Donc pour ceux qui sont déjà venus, vous connaissez. Une soirée avec de la bonne humeur, de la joie et des animations. Une discussion à la fin du film tous ensemble en famille. Ça sera très sympa et n'hésitez pas à vous renseigner pour savoir quand les places seront disponibles. Donc la soirée 26 janvier 2017 à 20h30.
Je vais inviter ma maman. Elle adore Retour vers le futur, ma maman.
Je vais inviter toute ma famille.
Et donc, si vous avez notamment programmé Retour vers le futur, est-ce que c'est pas parce qu'il y a eu toutes ces rétrospectives dernièrement et que la copie cinéma du coup était disponible?
Oui, ouais, bah du coup, comme la copie est disponible, c'est vrai qu'à un moment, on s'était dit que ça pourrait être sympa de faire une soirée Retour vers le futur au moment où il y avait eu la rétrospective un peu partout dans le monde. Et bon, ça n'avait pas pu se faire à ce moment-là, donc du coup, bah, là, on en profite, comme la copie est disponible et que c'est faisable. On s'est dit, tiens, allez hop, pour le prochain Popcorn Reborn, comme le film est absolument génial.
Oui.
Donc voilà, Retour vers le futur, le 26 janvier 2017.
C'est très bien,
très bonne nouvelle.
Bonne chose,
bien sûr.
Mais oui.
Et donc maintenant, on va passer à une chronique par notre invité, Adrien.
Bonjour, enchanté.
On invite des gens, on les fait travailler.
Ouais, c'est ça. Donc il va nous parler d'un jeu vidéo qui est sorti au
le
mois de novembre.
28 octobre 2016.
Ah, 28 octobre.
Oui, j'ai révisé juste avant de
venir. Bien joué. Donc il s'appelle Titanfall 2.
Titanfall 2. Alors Titanfall 2, c'est qui, c'est quoi, c'est comment? C'est développé, c'est un jeu développé par Respawn Entertainment et c'est édité par EA Games. Donc Titanfall 2, c'est quoi? C'est par logique la suite de Titanfall premier du nom, qui était un jeu exclusivement sorti sur Xbox One et c'était à la base un jeu uniquement multijoueur. Donc je ne l'ai pas fait, le premier. Apparemment c'était très très bien, c'était vraiment un très bon jeu, ça manquait de contenu et là ils nous sortent une suite qui propose quelque chose de nouveau, c'est un mode solo. Et c'est génial, parce que Titanfall 2, c'est quoi? C'est le jeu de l'amour. C'est un gameplay absolument génial, c'est hyper jouissif. C'est, en fait, si vous voulez, le jeu, c'est un FPS dans un monde un petit peu futuriste, avec des soldats qu'on appelle, je crois, c'est de mémoire, les pilotes.
Ouais, c'est ça.
Les pilotes, et ces personnes-là peuvent piloter des mechas, donc ces espèces de gros robots qui doivent faire genre 4 mètres de haut. Et c'est génial ce jeu, c'est un jeu qui base tout sur son gameplay. On court sur les murs, ça va très très vite, on saute, on glisse, on va partout, ça va dans tous les sens. C'est absolument génial, c'est vraiment, j'ai pris un plaisir monstrueux à jouer à ce jeu. L'histoire du jeu est pas follement passionnante, c'est très classique, il y a des gentils, des méchants. Mais par contre tout est dans le gameplay, ça va à une vitesse pas possible, c'est très rapide, c'est la direction artistique du jeu est magnifique. Enfin, un jeu où on se dit pas oh bah tiens, j'ai l'impression d'avoir joué à ce niveau 50 000 fois avant. C'est magnifique, c'est somptueux. La BO est magnifique aussi. La BO de
Stephen Barton, qui est un compositeur de musique additionnel sur des films, avec Harry Gregson Williams, donc qui a bossé sur Team America, Shrek 1, 2, 3, Kingdom of Heaven de Ridley Scott, qui est aussi le compositeur de la bande-son de Call of Duty 4 Modern Warfare.
Et oui, parce que Respawn Entertainment, c'est un studio qui a été créé par les fondateurs de
Infinity War.
Infinity War, merci. Ouais. Et donc, ce jeu est vraiment, vraiment génial. C'est vraiment, j'ai pris un plaisir mais monstrueux à jouer jeu.
Ce qu'on peut dire, c'est le gameplay. Donc, il y a un peu de Mirror Edge, même beaucoup.
Il y a beaucoup de Mirror Edge, puisque vraiment là, on joue par rapport au décor. Ouais. Quoi. C'est vraiment, les niveaux ont été pensés pour qu'on puisse jouer par rapport au décor. Donc on court sur les murs, on fait des doubles sauts,
on
court sur le mur de gauche, hop, on saute, on va sur le mur de droite, on tire à l'aveuglette en courant sur le mur, on glisse, on tacle les ennemis, on saute, on rebondit sur les ennemis, enfin ça va très très vite, c'est jouissif, c'est fluide, c'est d'une fluidité.
Ah ouais, ça par contre il faut le dire.
Ah ouais, non, c'est pas comme par exemple ce dernier Call of Duty qui est sorti, qui se veut quelque chose de rapide, nerveux et tout, et en fait c'est très lourdingue, là ça va très très vite, c'est l'univers en plus est fantastique, et à côté de ça on peut jouer aussi avec les mechas et là ça devient beaucoup plus bourrin, un peu plus un rythme un peu plus lourd, un peu
ça,
plus long.
Ça peut être très rapide en multi, en fait, c'est ça.
Oui, après en multi, ouais. C'est beaucoup plus rapide, mais c'est vrai qu'en solo, c'est beaucoup plus long, mais c'est plus beau. Hein. Et donc après, il y a aussi le multi, et qui est vraiment, vraiment super. Ouais. Parce que, alors là, ça, ouais. Autant le solo, ça va, ouais. Ça va très vite.
Le solo
c'est
vous prépare.
Mais alors, le multi, ça va à une vitesse, c'est rapide, c'est nerveux, il y a le grappin, ça va à une vitesse.
C'est complètement cinglé.
C'est ça, en fait, c'est vraiment un jeu de pur réflexe quasiment. Ouais. T'as pas le temps de réfléchir, c'est tu vois le mec, tu tires, hop, ça va à une vitesse, tu cours, tu glisses, tu sautes,
tu peux sauter d'un bâtiment, prendre un autre grappin pour atteindre
c'est
un
ça,
bâtiment.
C'est complètement fou. Tout est basé sur le gameplay. C'est vraiment. J'avais pas pris autant de plaisir depuis, ouais. Je crois, le dernier Doom, qui pareil était.
Ah, lui, il était.
Mazette.
Et justement, ouais. En matière de l'univers, tout ça, en fait, est-ce qu'il y a un espèce de petit speech justement,
oui,
pourquoi ils ont ces facultés de pouvoir marcher sur les murs, et peut-être que ça peut aussi.
Oui, il y a tout un petit scénario, ceci, cela. Après, c'est vrai que le scénario est pas non plus.
C'est
fou,
plus pour la forme, quoi.
Oui, voilà. Ouais, il y a un groupe de gentils, et puis les méchants arrivent, et puis enfin voilà.
En fait, l'histoire, c'est un peu comme le début de Edge of Tomorrow.
Ah, ok.
C'est-à-dire, voilà. Vous débarquez sur une planète où il y a des bad guys que vous avez déjà contrés dans le premier jeu apparemment, mmh. et vous faites massacrer. Et toi, t'es juste un genre d'apprenti, t'es un petit nouveau, t'as pas de méca. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les mécas en fait sont aussi des machines qui ont une intelligence artificielle.
Okay.
Et tu dois connecter, tu dois avoir un lien neuronal avec le mecha.
Un peu comme dans Avatar.
C'est ça.
Et du coup, tu te retrouves un peu complètement par hasard, propriétaire d'un mecha. En fait, ouais. Voilà, je vais pas dire comment, mais tu te retrouves avec un mecha qui est pas censé être le tien.
Ouais,
et à partir de ce moment-là, t'es un peu le nouvel espoir. Et en plus, ce qui est assez amusant, c'est que dans le jeu, il y a la voix française, forcément la voix française, il y a la voix de Joey Starr, qui joue un des personnages, un des méchants du jeu, qui a un rôle assez récurrent dans le jeu. On l'entend assez souvent et c'est assez marrant d'entendre Joey Starr dans le jeu.
Donc, faut le dire, c'est un jeu qui est plein d'aides contenus.
Mmh.
Donc, tous
les contenus sont gratuits.
Et
à l'époque dans laquelle on vit... extrêmement rare où tout est payant, ou même on te fait des fois payer,
ouais.
La fin du jeu en DLC.
Donc voilà, faut le dire, c'est,
ouais,
c'est
tous les DLC qui sortiront jusqu'à la fin du seront gratuits. Tout est gratuit, à part l'achat du jeu bien sûr qui est payant.
Et c'est un jeu qui est très très riche déjà en contenu. Voilà.
Ouais.
On le conseille.
Ah oui, non, mais je le conseille pour cette fin d'année. C'est vraiment pour moi le. Le FPS vraiment à acheter, parce que c'est du plaisir à l'état pur, quoi.
Il est à 40€ soldé, je crois, déjà.
Oui, il est vraiment pas cher.
9 sous blister.
Très raisonnable.
C'est dommage, le jeu n'a pas marché plus que ça, donc n'hésitez pas à sauter.
Après, il fera peut-être partie de ces jeux justement qui vont connaître un second souffle grâce à la vente d'occasion.
Mais malheureusement, est-ce que ça suffira pour avoir une suite par rapport à l'éditeur qui ne vendra pas que du neuf?
Il y avait Ubisoft qui s'était planté avec Rayman Origins, qui avait fait très peu de ventes au final en neuf, et en fait, il a reconnu un second souffle durant les périodes de Noël, justement, parce qu'il a été acheté un nombre incalculable de fois en occasion, et c'est ce qui a aussi poussé. Enfin, les Rayman Legends devait y avoir une suite, mais c'était pas sûr, et en fait ça a reboosté l'envie des développeurs.
Un peu comme Mirror Edge qui avait connu un succès.
On a quand même attendu plus.
Mais il a quand même un meilleur succès que je pense que ce qu'avait Mirror Edge durant son temps. En tout cas,
c'est sûr.
On va donc clore cette chronique sur Titanfall 2 avec un petit peu de son, donc le main theme, je crois, du menu principal. We'll be right back. Et donc vous avez écouté un extrait de la bande-son de Titanfall 2 composée par Stephen Barton. Et donc on va passer à une chronique sur un film, Sukiyaki Western Django.
C'est un très long titre.
Ange.
Oui, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener au Japon. Et oui, il faut parfois changer d'air et ne pas toujours rester cramponné au film américain ou français. Et là je vous ai ramené un petit bijou parce que je vais vous parler d'un film de Takashi Miike, donc réalisateur du film Yatterman et de la trilogie Dead or Alive. Ouais. Ou encore du film La Mélodie du Malheur.
Waouh, quel de super film, oui. Dead or Alive, waouh.
Hey, voilà.
Excusez-moi,
Yatterman est un très bon film,
oui,
hein, en soi.
Mais
oui, il y a un film qui s'appelle aussi, qu'il a créé, qui s'appelle La Mélodie du Malheur, qui a l'air tout à fait spécial et étrange et que j'ai pas du tout envie de regarder. Mais bon, voilà, là je vais vous parler du film Sukiyaki Western Django qui date de 2007 avec Hideaki Itō, Yusuke, je me suis juste pris un délire de redire les noms japonais, c'est toujours drôle à dire. Iseya, Kaori Momoi, que vous avez pu voir dans Mémoire d'une Geisha ou même Fukushima Mon Amour.
Oui.
Et Quentin Tarantino.
Oui, c'est vrai.
Bon, ok, on revient vers les États-Unis, mais il ne fait pas grand-chose dans le film, ne vous inquiétez pas, à part aider à la réal. Et du coup.
Ne vous inquiétez pas. Parce que vous savez, parce que voilà, personne n'aime Quentin Tarantino, hein. Tout le monde le déteste, c'est une honte ce mec. Voilà.
Mais du coup, il a quand même fait Django Unchained bien après ça, en fait, en 2012.
Oui.
Donc peut-être s'est-il inspiré de ce film.
Il ouais, y avait déjà Django. Django, oui, c'est déjà un premier film.
Oui, 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 ça je sais. Mais bon, vu qu'il a travaillé sur ce film Django, enfin oui. Une sorte de Django, hein. Peut-être qu'il s'en inspire. Donc pour vous, résumer l'histoire, un inconnu débarque dans une ville où s'affrontent deux clans de chercheurs d'or, les rouges et les blancs. Ils font tous deux une offre alléchante à l'inconnu pour qu'il se range de leur côté, mais il préfère aller avec une femme du nom de Ruriko, l'une des seules habitantes à ne pas avoir abandonné sa ville à la querelle. Donc voilà, c'est parti pour une folie qui allie le western et le film, on va dire, de samouraï, pour ne pas dire typiquement japonais, qui plus est une sorte d'adaptation de La Guerre des Deux Roses, Henri VI. Vous connaissez tous ?
Oui.
Shakespeare. Donc voilà, je dois vous dire que c'est un régal pour les yeux.
Ça se prononce pas plutôt Shakespeare ?
Shakespeare.
Shakespeare. Ouais, on dirait aussi pour une poignée de dollars. Oh là là. Non, mais on dirait pour une poignée de dollars, le mec il arrive et puis il y a des clans qui s'affrontent.
Mais d'accord. C'est un peu la base de tous les films. Enfin, ouais, dire, tous les films de western commencent presque comme ça.
Il y a de l'or.
Il y a de l'or.
Des pépites.
Mais bon, comme dans tous les westerns, j'ai envie de dire.
C'est pas faux. C'est pas faux.
En fait, c'est un western.
C'est étrange.
Et western est dans le titre.
Mais voilà, en plus. Donc, esthétiquement parlant, dès l'introduction du film avec Tarantino, bah oui. Il s'agit de commencer badass. On se retrouve dans un décor typiquement de studio. On voit clairement que la montagne en arrière-plan est un dessin sur du carton. On pourrait croire que c'est fait par un enfant d'ailleurs. Le soleil est tenu par une corde par exemple et ça marche. Le jeu des acteurs est parfois très théâtral et rentre parfaitement dans les décors. Donc j'apprécie énormément ces aspects esthétiques. Vous l'aurez certainement compris parce que Bunraku, dont j'ai parlé dans une autre émission, était fait de la même manière.
Ah, il était magnifique ce film.
Eh oui, il était super. Et donc j'apprécie beaucoup parce que ça annonce le thème du film. On part ici sur quelque chose qui se montre réaliste d'un point de vue scénaristique. Quoi de plus banal, comme on l'a dit, pour un western que des chercheurs d'or et d'un inconnu qui passe par là. Donc ça colle à un esprit totalement rationnel, et pourtant il peut y avoir des trucs totalement irrationnels qui arrivent grâce à cette ambiance générale théâtrale. Donc, et vous vous en doutez sûrement, s'il y a Tarantino derrière, le sang doit couler à flot. Et ben pas trop pour le coup. Certes, certains combats paraissent gore, mais le rouge du sang ne devait pas souvent apparaître pour éviter de trop salir les vêtements blancs.
Donc, le sang est blanc.
Non ? Le sang est rouge.
Le mec, il comprendrait.
Il faut suivre un peu.
Le mec, il comprendrait.
Donc, les combats sont d'ailleurs géniaux, puisque les katanas sont remplacés par des colts qui sont utilisés à une vitesse ahurissante. Bref, on a une bonne dizaine de Lucky Luke à l'œuvre, en fait, dans ce film. Donc, pour ma part, je trouve que ce film est un bijou dans le monde du western, parce qu'il respecte totalement le genre, tout en le japonisant. Et je prierai Benjamin de couper le volume de son portable, tout en mettant le direct de l'émission. Merci beaucoup. Et de plus, tout en restant sérieux, ce film est très drôle grâce à sa diversité de personnages. Donc je vous invite vivement à découvrir ce film, décrit comme étant un opéra de violence baroque et barré juste fou par Mad Movies. Et je suis d'accord avec eux, pour le coup. Donc alors bon, ce bon film, et surtout, dernier conseil, n'hésitez pas à vous procurer la version longue du film qui dure environ 1h55. Donc sur ce... Bah franchement...
Contre combien de temps sur la version cinéma,
La version courte, 1h30. Enfin, 1h20 du coup.
Ah, quand même, il y a
30 minutes.
Ah, ouais, il y a 30 minutes de plus. Ouais. Et c'est que des scènes de combat, en fait, la plupart.
Ça doit être autre chose que les 13 minutes de Suicide Squad.
Pam pam pam.
Voilà. Je suis pas branché
toutes les
pour
semaines. Alors voilà, chers auditeurs, toutes les semaines vous aurez droit à une petite bombe sur Suicide Squad parce que depuis qu'il est sorti, on n'arrête pas.
On n'arrive pas à s'en remettre.
C'est,
personne s'en est remis.
Personne s'est remis de Suicide Squad.
C'est un trauma cinéphile.
En même temps, c'est vrai que presque 1h30, 2h de clip, c'est vrai que ça fait mal. Quoi. Donc,
il faudrait quand même que je le voie.
2h d'MTV, mais avec Will Smith, voilà. Ça va quoi.
En fait, c'est un film qui a été produit par MTV.
Mais bon, sur ce, je vais vous laisser quand même avec une bonne musique tirée du film. La fameuse, la fameuse musique Django que vous avez pu entendre dans Django Unchained.
Oui,
Django.
Django.
Django, Hawaii-ta. ジャンゴ命の音が静かな目で見据えているそこは狼の道ジャンゴ 孤独文字をジャンゴ背負った者は迷いもなく涙もなく薄れ月夜に吠える
Et donc c'était
Django Sasori.
Waouh. Waouh, merci pour cette imitation
absolument raciste.
Voilà. J'ai une question, est-ce que ce serait pas sorti à l'époque de Planète Terreur et des autres films Greenhouse?
Ah, c'est une bonne question ça.
Ah bah 2007, je ne sais pas.
Ah,
pose la question à Wikipédia.
Ouais, ah, il me semble.
Pour Planète Terreur.
Donc on va passer à une autre chronique.
Oui.
Une chronique sortie d'outre-tombe. J'étais obligé de sortir cette blague. Et on va parler. Enfin, tu vas parler, pardon. De The Walking Dead.
Bah ouais, The Walking
Next
Dead.
On the Walking
Dead. Bah oui, parce qu'en fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'en plus, la saison 7, la dernière saison actuellement, a commencé il y a peu de temps. On est déjà à 4 ou 5 épisodes, je crois.
La saison à spoiler.
C'est ça, exactement. La saison qui n'était pas encore sortie, qu'on savait déjà ce qui allait se passer. Alors, du coup, bon, pour présenter un peu Walking Dead, donc c'est une série télévisée américaine qui a été adaptée par Robert Kirkman et Frank Darabont. Robert Kirkman, d'ailleurs, qui est le créateur de la fameuse bande dessinée éponyme, donc The Walking Dead, qui est édité chez Delcourt en France. La publication du comics date à peu près de 2003, tandis que la diffusion de la série, elle, date de 2010. Et oui, 7 ans de différence entre les deux supports, de quoi laisser quand même le projet mûrir et de proposer une adaptation en grande pompe. Et la plupart d'entre vous se souviendront justement de cette première saison magnifique, de ce fameux plan où on voit l'ancien shérif Rick Grimm s'avancer vers la ville d'Atlanta sur son cheval, la ville en ruine avec des mort.
Merci Franck Darabont.
Exactement. Mais cela dit, quand même, des plans intenses, parfois même à la limite du symbolisme, pour une adaptation au final qui est, qui au final propose, enfin semblait proposer dès la première saison une nouvelle orientation de scénario par rapport aux comics.
Ouais, clairement.
Voilà, on devait partir sur quelque chose de suffisamment, ça ne veut rien dire ce que j'allais dire, suffisant, ça ne veut rien dire.
Non.
C'est
pas grave, t'as compris.
Plaît-il ? Mais à la base, la série de devait s'inspirer au début du comics et pour ensuite le délaisser pour créer sa propre histoire. Mais en fait, au final, c'est tout le contraire qui se produit actuellement avec The Walking Dead et qui a commencé à se faire au fur et à mesure. Parce que faut quand même reconnaître que la série a connu des hauts et des bas en termes de qualité. Hein. Le schéma narratif garde déjà maintenant le même que celui du comics, mais je me souviens par exemple d'une saison 3, donc avec l'arrivée du personnage méchant le gouverneur, avec la prison où on est dans un rythme beaucoup plus on se fait chier quoi, enfin un petit peu, hein, je vais pas
faut le dire.
Voilà, moi c'est des saisons qui c'est la saison 3 et 4, c'est des saisons qui m'ont très peu marqué et sur lesquelles je garde très peu de bons moments.
Et dans un premier temps, c'est vrai qu'on aime l'adaptation. Dans un second temps, on s'ennuie en regardant l'adaptation. Et ensuite, il y a le troisième temps, et c'est celui-là dont je vais vous parler. Et d'ailleurs, je vais vous demander, est-ce que vous avez suivi la série ?
Oui. Alors, je me suis arrêté à la fin de la saison 2.
Pendant la saison 2.
Me suis arrêté, on va dire, un peu avant la moitié de la saison 2. On va dire à 45% de la saison 2.
Et c'était déjà une saison de transition, puisque Darabon est en froid avec les producteurs. Il a été viré.
C'est ça.
Et du coup, c'est d'autres showrunners qui ont pris le contrôle de la série.
Exactement. Et c'est aussi ce qui explique justement là ce dont je vais vous parler. C'est un peu de la saison 7. Donc, si vous n'avez pas encore vu la saison 7, n'écoutez pas ce passage de l'émission, sérieusement, parce que
D'ailleurs, on va couper le micro d'Antoine, comme ça il pourra continuer sa chronique tout.
Exactement, voilà. Donc si vous voulez entendre la suite, il faut venir directement au studio de PFM pour pouvoir m'écouter. Alors pour la saison 7, alors au final, on colle sur le scénario du comics. On retourne à l'essence même de la bande dessinée. Au final, dont le schéma narratif et les twists, venaient nous surprendre. Par exemple, je pense notamment dans le comics à la mort de Glenn. Si je sais pas si vous lisez les comics vous autour de la table.
Non.
Du coup, dans les comics, le personnage de Glenn meurt tué par le nouveau méchant qui est présent à la saison 7, qui s'appelle Negan et qui est joué par. Il se fait atomiser la gueule avec une batte et des barbelés. Alors que c'est quand même un personnage phare. Et c'est vrai que quand j'avais lu le comics, on s'y attend pas. Bon, quand on a lu les comics et qu'on voit la série, on se dit c'est forcément Glenn qui va crever. C'est clair et net. C'est intéressant de remarquer qu'en fait, au final, ça remet les compteurs à zéro parce qu'il y a un autre personnage qui meurt dans la série télévisée en même temps que Glenn. Tu peux te taire, s'il te plaît. Merci. Il y a un deuxième personnage qui meurt en fait avec Glenn. Il s'agit d'Abraham. Alors, Abraham, qui est une espèce de grand rouquin un peu militaire, un colosse, qui se fait aussi tuer par Negan dans la série. Et en fait, dans le comics, il meurt bien avant, d'une balle dans la tête. Du coup, c'est assez intéressant de voir que, en termes de scénarisation, en fait, on retourne vraiment à la configuration avec les personnages qui sont présents dans le comics. Ils ont complètement laissé derrière leurs idées, justement, de changer l'orientation de l'histoire, accorder plus d'importance à des personnages. Par exemple, le personnage d'Abraham commençait à avoir un rôle très très important au sein de la communauté de survivants, et au final, en deux secondes, tous les espoirs sont balayés, il se fait défoncer la tronche et par un Jeffrey Dean Morgan qui est absolument fantastique dans le rôle de Negan. Franchement,
c'est le comédien dans Watchmen.
Oui, et qui joue le comédien, justement.
Qui aimerait jouer Batman vieux dans une des séries DC Comics.
Oui, et il est absolument fantastique en méchant. Il est imprévisible, il est calculateur, il est froid, il est drôle en même temps, il est purement effrayant. Et en plus, on apprécie aussi justement cette dimension imprévisible parce qu'elle colle vachement au personnage qui est présent dans le comics. Alors après, voilà, il y a aussi toute une évolution qui a été faite sur The Walking Dead parce que voilà, au début, on est plus dans la dimension, critique du mort-vivant qui revient d'outre-tombe, comme tu disais tout à l'heure, Ben, pour annihiler l'ensemble de l'humanité. Et ensuite, en fait, il y a une espèce d'accoutumance qui se fait sur les zombies, les morts, on est dans le danger, on est plus dans la survie en fait. Voilà.
C'est déjà un soap. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'était un soap, non ? C'est pas George Romero qui a dit que c'était un soap.
George Romero n'aime pas du tout la série. Et en même temps, je comprends, mais en même temps, je trouve que sa critique, elle est un peu vive parce que les zombies de George Romero ne racontent pas les mêmes histoires.
Après, c'est surtout que ceux de Romero ont une critique.
Dit que ses zombies avaient une critique et que ceux de Walking Dead n'en avaient pas. Et du coup, ça lui
parce que ça suivait un groupe d'humains.
Oui, c'est ça. Mais après, justement, ce que je trouve intéressant avec cette série, c'est qu'au final, c'est plus la question de la survie qui est mise en avant. Le mort-vivant, en fait, il a plus une dimension sociale, parfois un peu christique, plus qu'horrifique, qui est présente chez Romero. Entre reconstruction et anéantissement, en fait, il y a Kappa. Et malgré les hauts et les bas de la série, en fait, ça semble plutôt bien réparti. Et cette saison 7, ça annonce plutôt bien. Et on va se laisser sur l'une des musiques qui est présente dans le dernier épisode qui s'appelle The Cell. On va écouter ça tout de suite.
On vous dit au revoir.
Et on vous dit au revoir, exactement.
À la semaine prochaine.
Ah, bah au revoir.
Salut.
And it feels so sweet. 'Cause the world is but a tree.